Vivons profondément cette Alléluia de Pâques dans la nouvelle lumière et dans le feu nouveau. Il faut que notre cœur reste disponible à ce renouveau, à cette recréation que Jésus désire réaliser en nous. Chacun d'entre nous, d'une façon spéciale, particulière. Il ressuscite pour chacun d'entre nous. Et c'est remarquable quand on regarde l'Écriture, les Évangiles, de voir ce contact particulier de Jésus avec Marie de Magdala, avec Jean, avec Pierre, avec les apôtres, Thomas, les disciples d'Emmaüs. Il y a des petites corrections, hein. Jésus continue de se corriger. Hein. Les disciples d'Emmaüs, ils en reçoivent pour leur compte. Hein. Alors parmi vous, le jour de Pâques, il y en a qui reçoivent pour leur compte. Hein. Le Seigneur leur dit, homme sans intelligence, il n'a jamais dit ça durant son évangile, pendant qu'il était sur la terre. C'est la parole la plus extraordinaire qu'il dise le jour de Pâques. Homme sans intelligence, vous n'y avez rien compris. Encore rien compris, alors que quand même. Hein. Et c'est vrai, on voit la correction dans une infinie miséricorde. C'est la taille du Père. Et ça demeure, parce qu'on aura à être corrigé jusqu'à la fin de sa vie. Celui qui prétend hein, être parfait, il n'est pas disciple de Jésus. Il n'est pas docile à l'Esprit Saint. Plus on avance, plus on voit qu'on est capable d'être corrigé. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps faire un effort nouveau. On a fait un grand effort pendant le temps de carême. Hein. Grand, on arrive au terme, heureusement, maintenant on va se détendre. Et puis le soir de la résurrection, homme sans intelligence, hein, le Seigneur vient vous secouer pour vous dire, allez, repartez de nouveau. C'est vrai, je crois que c'est normal qu'il y ait une grande détente de Pâques. Hein. C'est une détente intérieure. Une détente intérieure qui a une répercussion sur notre pauvre corps humain, et sur notre pauvre psychisme, et sur nos pauvres nerfs, et tout ce qu'on peut dire. Hein. Bon, c'est normal qu'il y ait une détente, c'est nécessaire. Mais le mystère de la résurrection, c'est un appel à quelque chose de plus. Jésus ne nous fait jamais régresser. Ça, c'est très net. Il veut toujours plus. Plus on donne, plus il réclame. C'est pour ça que quelquefois on a une frousse intense de donner quelque chose, parce que c'est on met le petit doigt dedans et puis tout y passera. Parce qu'on le sait que c'est comme ça, c'est le propre de l'amour. Hein. C'est l'exigence même de l'amour. C'est une éducation dans l'ordre de l'amour, l'Esprit Saint. C'est une pédagogie dans l'ordre de l'amour. On est habitué à la pédagogie pour les vertus. On est habitué à une pédagogie un peu stoïcienne. Ça, c'est très facile. Allez, maîtrisez-vous, dominez un petit peu les passions, ne vous laissez pas prendre comme ça, ne dégringolez pas tout le temps, n'ayez pas la spiritualité de la planche. Hein. Et alors, bon, on comprend tout ça. Ce qui est très difficile, c'est cette éducation de l'amour. Or, c'est ça que l'Esprit Saint nous éduque. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Le véritable amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et c'est ce qui nous permet de monter le plus vite. Quand on aime vraiment, je dis quand on aime vraiment, parce que l'imaginaire se fourre dans l'amour, et alors à ce moment-là, ça devient des velléités. Et la velléité, à la place de nous affermir, ça nous affaiblit. Ça, c'est l'imaginaire. Alors on joue un petit roman. À la pleine lune. Vous avez remarqué, hier, au feu nouveau, il y avait une pleine lune admirable. Alors, vous voyez la différence entre la pleine lune et le feu nouveau. C'était extraordinaire. Comme un petit contraste étonnant, parce qu'on va dire la pleine lune, on va se... Non, le feu nouveau qui est là, qui réclame Vie flamme d'amour. Ça, c'est le feu nouveau. Il aurait fallu lire Vie flamme d'amour en face du feu nouveau hier. Ça aurait pris un de ses caractères particuliers, parce que Vie flamme d'amour, on le vit dans le mystère de la résurrection du Christ. C'est ça qu'on doit vivre. Et c'est le meilleur livre qu'on doit lire pour le temps de la résurrection. C'est Vie flamme d'amour. On doit le relire constamment. Parce que Vie flamme d'amour, on n'y comprend pas grand-chose. Au début, on est des petits novices, hein, à côté de Vie flamme d'amour. Il l'a écrit en prison, dans un dur carême. Mais c'était la possibilité de dépasser, la possibilité d'aller plus loin. Le mystère de la résurrection, c'est un des mystères les plus difficiles. Les plus difficiles à exprimer. On ne peut rien dire de la gloire du Christ au point de vue de notre expérience humaine. Rien du tout. On a des petites expériences de gloire, hein, mais c'est complètement idiot à côté de la gloire du Christ. Hein. Petites expériences de gloire, vous savez bien, la gloire, Saint-Augustin dit, c'est quand les autres vous louent et reconnaissent que vous avez des vertus. Alors ça, c'est la gloire. Hein. La gloire des hommes d'État, hein, ça dure longtemps. La gloire des hommes d'État, la gloire des savants, prix Nobel, la gloire d'un artiste, oui. Ça n'a rien à voir avec le mystère de la gloire. Parce que la gloire du Christ, elle est toute intérieure. Mais elle est tellement intérieure qu'elle éclate. C'est l'éclatement de l'amour. C'est l'éclatement de la toute-puissance au service de l'amour. C'est la toute-puissance au service de l'amour qui fait que l'amour, alors, peut s'exprimer pleinement et totalement et aller jusqu'au bout des exigences de l'amour. Il n'y a plus rien qui arrête les exigences de l'amour. C'est ça, la gloire. C'est la victoire plénière de l'amour. Plus aucun conditionnement qui arrête. Alors, on peut laisser libre cours à son amour. Mais ça vient de l'intérieur. Jésus se glorifie pour glorifier le Père. Et il est glorifié par le Père, c'est cette victoire de l'amour qui se manifeste. La victoire de l'amour, elle est présente à la croix, elle se manifeste dans la résurrection. Alors on peut dire, c'est la manifestation, mais vous voyez, quand on dit la manifestation, on ne comprend pas bien, parce qu'on croit que c'est de l'extérieur, nous, quand on manifeste. Hein. Les manifestations, on voit très bien ce que c'est, n'est-ce pas, les manifestations, c'est très très bien, je n'ai rien contre, il en faut, c'est nécessaire, mais c'est des toutes petites gloires, vous comprenez, les manifestations, c'est pour la gloire, c'est pour la victoire, les manifestations, c'est pour être victorieux, c'est pour montrer qu'on est là. La gloire divine, elle vient de l'intérieur, c'est une exigence de l'amour, et c'est le langage de l'amour. Et dans le mystère de la résurrection du Christ, tout est langage d'amour. Et c'est pour ça que c'est si difficile de le dire, de l'exprimer, parce que ça nous dépasse complètement. Mais quand on essaie, et on doit aujourd'hui être tout proche de Marie vivant le mystère de la résurrection. Et le Saint-Esprit ne nous dit rien. Un silence total. C'est le mystère par excellence de Marie. C'est bien évident. Quand il s'agit de la souffrance, on dit qu'elle est là. Quand il s'agit de la gloire, on n'en parle plus. Vous voyez le langage du Saint-Esprit. Ça, c'est merveilleux. La présence de Marie à la croix, stabat mater. Et quand il s'agit de la gloire, un grand silence. Parce que celui qui a été lié au Christ à la croix est nécessairement lié à la gloire. Donc le Saint-Esprit n'a pas besoin de parler. C'est ça qui est très étonnant. Et c'est ça qui est merveilleux. Il y a un lien de nécessité. Et c'est saint Thomas qui le dit. Il y a un lien de nécessité. C'est Jésus qui le dit lui-même aux disciples d'Emmaüs. Il fallait la souffrance pour la gloire. Ça, c'est la voie royale. Il fallait la souffrance pour la gloire. Quand il s'agit de la souffrance, est-ce que c'était nécessaire que Marie soit au pied de la croix ? n'était pas nécessaire pour le salut des hommes. Un seul est nécessaire pour le salut des hommes, c'est Jésus qui nous porte. Et ce n'était pas nécessaire que ce salut se fasse par la croix. Ça aurait pu se faire autrement. Mais dans sa sagesse, Dieu a voulu que ce soit par la croix. Et dans sa sagesse, Dieu veut qu'il y ait la présence de Marie pour ce surcroît de souffrance, d'un surcroît d'amour. Parce que Marie vit la souffrance du Christ, et Marie vivant la souffrance du Christ va augmenter la souffrance du Christ. Pour le cœur de Jésus, être source de souffrance pour sa mère, peut-être la plus grande des souffrances. Qualitative. Faire souffrir quelqu'un qu'on aime, c'est intolérable, humainement parlant. Or, Jésus a été source de souffrance pour sa mère. Ça, c'est bien évident, et il le savait. C'est pour ça, vous voyez, qu'il y a cette espèce de réciprocité étonnante, ce flux et le reflux. Eaux de la croix où Jésus attire Marie et Marie attire Jésus. C'était pas nécessaire et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous le révèle. Et si Marie est si unie au mystère de la croix, si le mystère de la compassion, c'est Marie liée à l'agonie, à la croix, au mystère du sépulcre, il est nécessaire, dans la sagesse de Dieu, on peut le dire, que Marie, qui était la plus unie à Jésus dans la souffrance, soit la plus unie dans la gloire. Parce que l'agonie, la croix, le sépulcre, c'est déjà la victoire de l'amour. C'est une victoire de l'amour dans l'absence. C'est une victoire de l'amour dans le silence. C'est une victoire de l'amour à travers la souffrance, la douleur, à travers les brisures, à travers les échecs. Mais c'est une victoire de l'amour. Et substantiellement, la victoire de l'amour de la croix, de l'agonie et du sépulcre, c'est la même que celle de la résurrection. Il y a une continuité dans l'ordre de l'amour. Dans l'ordre visible, c'est totalement différent. On passe de la terre et de toutes les brisures de la terre à cette gloire unique, étonnante du corps glorieux du Christ. C'est un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais il y a un lien substantiel dans l'ordre de l'amour. Comme Marie est unie à l'amour du Christ qui agonise, qui meurt et qui est dans le sépulcre, Marie continue de vivre de cette unité dans le mystère de la gloire. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que Marie vive ce mystère de la gloire. Et elle le vit dans le plus grand silence. La manifestation. C'est étonnant ce langage du Saint-Esprit, hein, si on sait le comprendre. Elle le vit dans le plus grand silence pour nous faire comprendre que le mystère de la gloire est un mystère d'amour. Pas de manifestation en premier lieu. C'est un mystère d'amour. C'est la victoire de l'amour qui est communiquée en plénitude à Marie. Et la victoire de l'amour, qu'est-ce que c'est ? D'être une avec Jésus. C'est la seule chose que son cœur désire. Jésus lui a demandé, du haut de la croix, une ultime purification de sa sensibilité. Je vous le disais hier, en lui disant, femme, voilà ton fils. Et Jésus qui lui a demandé cette ultime purification de sa sensibilité. C'est toujours très très pénible, hein, les purifications de la sensibilité. parce que ça, ça se ressent. Et c'est toujours dans l'ordre de la charité fraternelle. C'est très étonnant, ça. Parce que tout ce qui se passe dans la charité fraternelle, eh bien, nous le sentons plus. Hein. Mais les grâces d'oraison, les grâces très intimes d'oraison, l'amour dépasse toujours. Tandis que les grâces très fortes de la charité fraternelle peuvent être infiniment plus douloureuses pour nous, parce qu'on en a une conscience plus aiguë. Et il faut bien saisir cette purification de la sensibilité de Marie. Tout est pur en elle, mais les purifications doivent aller toujours plus loin, puisqu'elles sont commandées par l'amour et par l'amour divin. L'amour divin n'est jamais en harmonie plénière avec notre sensibilité, c'est bien évident. Même si on a une sensibilité très pure, une sensibilité merveilleuse, sans aucune espèce de petite ombre ou de repli sur nous-mêmes, l'amour divin est d'un autre ordre. Alors ça écartèle notre pauvre cœur humain, n'est-ce pas ? Et notre sensibilité de notre cœur humain est prise, c'est le cautère de Saint Jean de la Croix. Et ça exprime très bien ça, on voit très bien. C'est cette blessure qui est vécue avec une très grande intensité. Et ça fait partie des blessures du cœur de Marie quand Jésus dit « Femme, voilà ton fils ». C'est le cautère divin qui passe dans le cœur de Marie pour que Marie soit totalement purifiée dans sa sensibilité. Demeurer avec Jean pour Marie, par amour pour le Christ, c'est d'être encore plus unie à Jésus que si elle était restée dans la solitude, que si Jésus avait respecté ce lien en disant « Il est unique, c'est moi qui te garde, tu seras ermite ». On a toujours des nostalgies d'être ermite, c'est bien évident, on louche toujours dessus, hein. C'est parce que l'autre, hein, on sait ce que c'est, et si on pouvait ne plus penser à l'autre, dire moi je l'aime d'une façon toute divine, uniquement dans la contemplation, alors il ne me dérange pas, vous comprenez. Si Marie était restée ermite, elle avait un droit à l'ermitage. C'est facile, Jésus aurait pu dire à Jean, tu construiras un petit ermitage pour Marie dans tel lieu, et puis tu iras régulièrement t'occuper d'elle, mais il faut un ermitage. C'est pas contre les ermitages que je dis ça, mais c'est simplement pour que nous comprenions. À certains, Dieu peut demander d'être dans un ermitage, mais comprenons bien qu'à Marie, il a demandé tout dans ce qu'il y avait d'ultime. Et quand je pense à l'ermitage de Marthe, c'était un fameux ermitage. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ermitages qui étaient comme ça. Quand on pense à la cellule de Marthe, à la chambre de Marthe, où tout le monde passait, c'est terrible de ne pas avoir un lieu, même pas une chambre tranquille. Tout le monde passait. Elle était immobilisée. Personne ne vient. Clôture papale. C'est merveilleux, ça. Extraordinaire d'avoir ça. Il le faut. Je ne suis pas contre le droit canon, bien évident. Il le faut, c'est nécessaire. Mais voyons ce que le Saint-Esprit a fait pour Marie. Il faut le comprendre. Parce que c'est quand même elle qui est le modèle. Vous voyez, ce n'est pas les décisions du droit canon qui jouent un rôle de cause exemplaire. Le droit canon ne joue jamais le rôle de cause exemplaire. C'est très curieux. Hein. Marie joue ce rôle de cause exemplaire. Le droit canon, on le respecte. une petite tonalité assez particulière. C'était extraordinaire, mais un respect étonnant, mais un dépassement. On respecte les choses de deux manières. On les respecte quand on les regarde un petit peu loin. On les respecte quand on les a complètement assumées. On sait très bien qu'il faut respecter. Il faut respecter tout ça, c'est très nécessaire. Pas un iota de la loi ne disparaît. Pas un iota de la loi ne disparaît. C'est le respect merveilleux vis-à-vis de la loi. Et c'est un dépassement qui va beaucoup plus loin. Marie a accepté d'avoir comme unique ermitage le cœur de Jean. C'est pas drôle d'avoir comme ermitage le cœur d'un apôtre, parce qu'il est obligé d'aller de droite et de gauche. Et c'est l'ermitage de Marie. Elle n'a pas d'autre relative à Jean. Et dans cet ermitage, vient se donner à elle immédiatement dans la nuit de Pâques. Il se donne totalement. Marie vit dans une nouvelle unité. Il fallait que son cœur connaisse cette purification à l'égard de sa maternité divine. Chacun d'entre nous, pour que son cœur puisse connaître une nouvelle unité d'amour avec son bien-aimé, Jésus. Toujours la même phrase qu'il faut reprendre du Cantique des Cantiques, qu'elle est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Comme c'est extraordinaire pour ce mystère de la résurrection. Quelle est celle qui monte du désert, le désert du sépulcre, appuyée l'espérance sur le cœur de son bien-aimé. Et elle est uniquement cette grande unité dans le mystère de la résurrection. Tout entière prise. C'est ça qui est merveilleux avec le mystère de Pâques et de la glorification du corps du Christ, c'est qu'à partir du mystère de la résurrection, Jésus peut envelopper divinement toute Marie. Parce que par la grâce de la glorification de son corps, il devient le lieu divin de ce qui est plus intime en nous, de notre vie de foi, d'espérance et de charité, et de ce qu'il y a de plus sensible en nous, notre sensibilité, notre pauvre corps. Il est entièrement saisi par Jésus dans sa gloire. Et Jésus devient le lieu de Marie. Tant que Jésus vivait sur la terre, Marie était la mère. Et un fils vis-à-vis d'une mère sait très bien qu'il y a toujours une certaine dépendance. L'expression de Saint Louis, Marie Grignon Montfort, qui est si forte, Marie est le moule de Dieu, parce qu'elle était la mère, et donc elle était le lieu, d'une certaine manière, de la formation du corps du Christ. Et le corps du Christ avait toujours, tant qu'il vivait sur la terre, avait cette dépendance à l'égard de Marie. Il était vécu dans un amour étonnant, ça explique le respect de Jésus pour Marie. Parce que Marie était sa mère. Dieu avait voulu, le Père avait voulu qu'elle soit sa mère. Et quand on est dans l'agonie, et quand on est crucifié, quand on n'en peut plus sous le poids de la souffrance, on redevient plus petit qu'un petit enfant. Qu'on peut tous avoir vécu. C'était à Lyon, dans un hôpital, d'un jeune officier choisi, hein. Dites-vous bien ça. C'est pas nous qui avons choisi, pas nous qui avons coupé les bras à Jésus, c'est pas nous qui avons fendu le Christ en deux. Non, pas du tout. Il est arrivé comme ça, mystérieusement. Mystérieusement. Et quand on sait toutes les circonstances, on sait que c'est encore beaucoup plus providentiel qu'on ne le pense. C'est très étonnant. Raviné par le temps, comme un tout petit enfant, privé. Un enfant, c'est l'espérance. Il est faible, mais il est fort dans son espérance. Tandis qu'au contraire, le Christ crucifié et tous ceux qui sont agonisants, en pleine force de l'âme, c'est normal. Quand un homme en pleine force meurt, qu'il agonise, on voit ce que c'est. Il redevient comme un tout. Totalement dévoué pour tout. À l'égard de sa mère, à l'égard de son épouse. Pas pour rien, hein, que nous toujours que Marie est la mère à la croix et qu'elle est l'épouse du cœur de Jésus. Il faut quelquefois voir ces choses-là pour comprendre, hein, et pour saisir. Marie était les deux. Dans l'unité d'amour, elle était la mère. Elle n'a jamais été autant mère pour Jésus qu'à la croix. Dans sa sensibilité, dans son cœur de mère, toutes les fibres de son cœur de mère, pleinement et totalement dans l'intention de celui qu'on aime. Et on est épouse dans la mesure où on est totalement relatif aux intentions de celui qu'on aime. On est mère quand on porte un tout petit et qu'on est source de force et de vie pour la fragilité d'un tout petit. Et Jésus à la croix, il est doublement relatif. À l'épouse, femme, voilà ton fils. Faire comprendre cette nouvelle maternité qui provient des liens d'épouse et d'épouse, qui provient de cette intensité d'amour qui est entre eux, son cœur. De la résurrection, c'est Jésus qui enveloppe Marie, qui la porte comme une flamme de feu qui la transporte au plus intime du mystère du Père. Puisque Jésus ressuscite comme fils bien-aimé, ne faisant qu'un avec le Père. Puisque Jésus ressuscite et est glorifié de la gloire même qu'il avait auprès du Père avant la création. Et c'est cette gloire que Jésus connaît qui est communiquée en plénitude à Marie, pour que Marie vive de ce mystère de gloire dans une unité d'amour. Vous voyez comment le mystère de la résurrection, vous voyez mystère de la contemplation au sens le plus fort. Parce que d'une certaine manière, nous n'avons plus aucun appui humain. C'est Jésus qui enveloppe tout. C'est la nouvelle créature. C'est le nouveau ciel, c'est la nouvelle terre. C'est une terre, c'est un ciel. C'est très vrai, c'est l'humanité sainte de Jésus, celle qui a été formée en Marie. Celle que Marie a portée à l'Annonciation, à Bethléem, à la croix. Et dans le mystère de la résurrection, c'est Jésus qui prend tout. Son corps glorifié devient la mesure, le modèle, la cause exemplaire du corps de sa mère. Marie est glorifiée sur le modèle du corps glorieux de son fils. Et c'est la plus grande joie de Marie. C'est de devenir totalement relative à Jésus, jusque dans sa sensibilité, toutes les fibres de son corps. Être totalement relative à Jésus, n'être plus comme lui. Nous sommes là en présence d'un grand mystère. C'est ce qu'il y a de plus mystérieux dans tout le mystère de la résurrection. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est cela que nous devons porter comme un grand secret d'amour qui nous est donné. N'oublions pas que ce silence, il nous est manifesté à travers toutes les apparitions. Les apparitions, c'est Jésus qui pédagogiquement, mais d'une pédagogie toute divine, vient convertir le cœur de Marie-Madeleine. Convertir le cœur de Jean, convertir le cœur de Pierre, de Thomas, des apôtres, des onze, des disciples d'Emmaüs. Une grande conversion, je vous rappelle. Il est encore temps, vous voyez, parce que les apôtres ne sont pas convertis durant la nuit, ils se sont convertis durant la journée et le soir. On pourrait fêter le soir de la résurrection. C'est vrai, c'est le soir de la résurrection qui s'est réalisé cette conversion des apôtres. Pour eux, les apparitions étaient nécessaires. Pour Marie, c'était dépassé. Mais Marie n'a pas méprisé les apparitions. Je suis sûr que Marie a écouté ce que Marie Magdala lui a dit. Que Marie aimait tant. Il y a un lien entre Marie Magdala et Marie, la mère de Jésus. Un lien très fort. Toutes les deux sont généreuses. Et d'une générosité. Les gens généreux se retrouvent toujours. Hein, grandeur du cœur. La générosité, une générosité qui demande d'être purifiée. C'est pas commode de purifier la générosité. Ça, c'est Marie Magdala. Marie ne méprisait pas les apparitions. Elle en était une, c'est possible. Hein, j'en sais rien. L'Écriture ne le dit pas. Je crois que Dieu lui a demandé le mérite de la foi jusqu'au bout. Je crois. Mais Marie a écouté l'apparition vis-à-vis des autres. Elle n'était pas jalouse. Elle aurait pu être jalouse de Marie Magdala. Hein, voyez ça. Parce que Marie Magdala a eu sa petite apparition. Et une apparition fameuse. Et la Vierge Marie, non, c'est du silence. On risque toujours d'être un petit peu jaloux vis-à-vis de ceux qui ont des apparitions. Là, si j'en avais une, ça irait mieux. C'est évident, si j'avais ces apparitions, je serais tout le temps dans la joie, ce serait merveilleux. Si ce soir, il y avait une apparition pour la communauté sainte, je viendrais à l'huile. C'est extraordinaire. Des apparitions, Jésus est apparu à toute la communauté parce qu'il l'aimait tellement. Il l'aime encore plus. charisme sont au service de la vie intérieure et du silence de Marie. Je me souviens de la Châteauneuf, avoir été une fois poussé, dit depuis une retraite aux membres de foyer, n'oubliez pas que les foyers de charité ne sont pas des foyers charismatiques parce que vous avez plus, vous avez le silence. C'était un charisme étonnant. Elle ne les méprisait pas, mais elle savait qu'il fallait les dépasser. Pas rester sur les apparitions. Il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je ne peux pas le dire. Alors, elle a continué. C'était merveilleux, du reste. Parce qu'on voyait bien la place des apparitions. Les apparitions, c'est périphérique dans l'Église. Ce n'est pas au cœur de l'Église. Le cœur de l'Église, c'est le silence de Marie. Toute prière vocale est ordonnée à la prière intérieure, nous dit Thomas d'Aquin. Toute prière vocale extérieure est ordonnée à la prière intérieure. Si elle n'est plus ordonnée à la prière intérieure, elle risque de nous disperser. C'est terrible. Une telle peine. Alors, très bien qu'on la fasse pour les autres. Et il faut de temps en temps jouer du tambour hein, pour les autres, pour rappeler le peuple de Dieu. Il n'écoute que cette voix-là. Alors, il faut quand même tambouriner pour qu'ils puissent écouter et venir. Autrement, ils ne viendraient pas. Mais si nous avons déjà reçu, nous savons que tout est ordonné à ce silence intérieur. C'est comme ça, je crois, que nous devons regarder les apparitions. La théologie des apparitions, il faut la faire hein, pendant toute la semaine après Pâques. Il faut la faire, parce que chaque jour après Pâques, ça nous donne une apparition. Et donc, il faut en faire la théologie des apparitions pour nous. Chacune des apparitions nous conduit au silence de Marie qui vit le mystère de la résurrection. Ce sont des voies divines, des voies d'accès. Ce sont merveilleuses voies d'accès. Chacune des apparitions, on avait le temps, on les regarderait toutes comme ça successivement, parce qu'elles sont merveilleuses. Et puis elles sont descriptives, elles sont artistiques. Chaque fois, c'est un petit tableau merveilleux. De lumière et d'ombre. Et de lumière étonnante. Chaque fois, vous avez l'art de l'Esprit Saint qui se sert du corps glorieux du Christ. C'est une matière étonnante. Il se sert du corps glorieux du Christ pour nous attirer, pour nous montrer ce qu'est l'amour. L'Esprit Saint cherche toujours à exprimer ce qu'est l'amour, la grandeur de l'amour, le mystère dans ce qu'il a de plus profond et de plus divin. La première apparition, celle de Marie de Magdala. C'est la plus descriptive, c'est la plus merveilleuse. Là, les ténèbres et la lumière sont étonnantes. Le premier jour de la semaine, Marie, la Magdalène, vient au tombeau le matin. Il n'y a que Jean hein, qui nous dit ça. Les synoptiques ne nous l'ont pas dit. Ça prouve que Jean a reçu la révélation directe de Marie Magdala. Je vous ai dit, il y a un lien entre les deux Maries. Et sûrement que Jean aime beaucoup Marie Magdala. ont été présents ensemble à la croix. Ça, ça unit. C'est comme les vieux soldats, les vieux troupiers qui ont vécu ensemble dans les tranchées pendant un certain temps. Alors jusqu'à la fin de leur vie, dès qu'ils se retrouvent, ils évoquent ces souvenirs étonnants parce qu'ils ont vécu quelque chose de très grand. Quand on n'a jamais vécu de lutte, on ne sait pas ce que c'est. Tandis que quand on a vécu une lutte ensemble et qu'à chaque instant on pouvait succomber, tomber, alors là ça vient de nous. Hein. Jean et Marie de Magdala étaient liés comme ça. Ils avaient vécu la même lutte, par la même fidélité. Alors vous comprendrez bien, Jean ne récite pas, ne dit pas son récit à lui. C'est pas tellement, c'est un homme. Et une femme, ça dit plus. Hein. Surtout quand une femme à Verdun, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. J'aurais raconté ça de façon étonnante, hein, indéfiniment. Mais Marie de Magdala, vous voyez, le Verdun chrétien, hein, c'est transposé, comprenez ce que ça veut dire. Elle est là. Et elle a vécu cette chose étonnante, bouleversante. Cette fin du monde. C'est une fin du monde, la croix. Du monde, ça c'est sûr, et quand l'Église vivra le mystère du Christ crucifié, ce sera la fin tout court du monde. Ça arrivera. On est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne le pense, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la croix, est le grand mystère de la croix, c'est cette fin du monde. Et Marie de Magdala était là. Et les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. On vient le reconnaître. Et pour du monde. Étonnante. Mais parmi les hommes, il n'y a que Jean. C'est pour ça qu'il est si uni à Marie. Si uni à Marie, c'est évident, encore beaucoup plus. Mais dans le regard de Jean, les deux, unis dans la sagesse de Dieu. Alors il faut écouter ce récit de Marie de Magdala fait à Jean le premier jour de la semaine. Nous y sommes, premier jour de la semaine, cette Pâque. Tout est renouvelé, un nouveau monde, un nouveau temps. Le premier jour de la semaine. C'est curieux, vous voyez, la Pâque ancienne, c'était par le mois. Ici, c'est le jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, Marie, la Magdalène, vint au tombeau le matin, alors qu'il faisait encore sombre. Tout le monde dormait. C'est ça que ça veut dire. Hein? Tout le monde continuait de dormir. On dormait le matin. Après les grandes souffrances et les grands tourments, on a besoin de dormir. Hein? C'est ainsi fait. Après une semaine sainte, faite avec beaucoup d'amour, on a besoin de dormir. Et on trouve, évidemment, la nuit de Pâques est courte. C'est le lendemain qu'il faut se rattraper. Alors, vint au tombeau le matin. Peut-être quand même présent à l'horizon. Mais vint au tombeau le matin, alors qu'il faisait encore sombre. C'est extraordinaire, ça. Tous les détails sont. On voit très bien Marie Magdala qui veut être la première. C'est bien qu'il y a des compagnes. Il faut être seul quand on veut être auprès de Jésus, le retrouver. Et elle aperçoit la pierre mauvaise. Précipite pour être la première. Ça, c'est la générosité du cœur. Être le premier au cœur, c'est pas avant que tous les autres arrivent. Être le premier pour montrer Jésus, voyez, il y a une petite flamme d'amour dans mon cœur, hein, qui dépasse celle de tous les autres. Vous voyez bien, il y a ça. Les autres viendront après, mais regardez comme je suis le premier. Regardez ça. C'est vrai, ça, c'est beau. Ça demande d'être purifié, c'est évident. Ça demande d'être purgé. Mais c'est grand parce que ça montre cette ferveur de l'amour. La ferveur de l'amour de Marie Magdala n'a pas été éteinte par les grandes eaux de la croix. Au contraire, les grandes eaux de la croix ont intensifié son amour et la ferveur de son amour. Elle est la première. dès que le sabbat est terminé, immédiatement, dès qu'elle est libre et qu'elle peut circuler, sans scandaliser, elle se précipite auprès du temple. Ça en dit très long, vous voyez, parce que ça montre combien Marie Magdala a eu de la peine à accepter la séparation. Ça a été terrible pour elle d'accepter la séparation. Elle a obéi pour respecter le sabbat.